RFI Matin.
9h42 à Paris dans 20 minutes, le journal signé Marion Kazanov à la une. La RDC après les mesures prises contre l'ancien président Kabila, analyse de Christian Ndombo-Moleka. Il est le coordinateur de la dynamique des politiques de RDC. D'abord à suivre, reportage à Marseille à l'écoute des diasporas africaines qui créent entre elles des ponts et ça marche, vous l'entendrez. Notre dossier Afrique Echo et puis le choix musical Japanese Breakfast, c'est José Marinho qui nous en parle bien sûr. D'abord le sport avec vous, Victor Misistrano. On commence par du football. Les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine ont débuté hier.
Et la RS Berkane a déjà un pied en finale. Large succès sur les Algériens du CS Constantine, 4-0. De son côté, l'équipe tanzanienne du Simba SC a pris une petite option en battant le club sud-africain de Stellenbosch 1-0. Un but inscrit par l'Ivoirien Jean-Charles Ahoua. Rendez-vous samedi prochain pour les demi-finales. Retour de cette Coupe de la CAF.
Direction la Côte d'Ivoire à présent. Une compétition de surf fait son retour sur le littoral.
Connu pour ses belles vagues, le village de pêcheurs de Grand-Drévin accueille depuis samedi et jusqu'à aujourd'hui le Grand-Drévin Surf Contest. Les meilleurs surfeurs du pays s'y affrontent 13 ans après la dernière compétition du même type. Le retour d'une belle ambiance. Reportage Yuen Gourlet.
Des cocotiers, des tentes et de la musique, le Grand-Drévin Surf Contest a des airs de festival ce week-end. Sur la plage, près de 200 personnes admirent les surfeurs ivoiriens et européens dompter les belles vagues de ce village de pêcheurs. Le surfeur Eric Kwaku sort de l'eau, ravi.
Ouais, je suis content. Déjà, moi, c'est ma première fois que je compétis ici. C'est pas moi, c'est l'ambiance. Ça anime l'endroit et c'est intéressant de voir ça, quoi.
Grand-Drévin retrouve des couleurs après 13 ans sans compétition. La dernière, la Camé Surf Contest, faisait office de championnat national. Mais l'état catastrophique de la côtière, la route allant d'Abidjan à San Pedro, avait mis Grand-Drévin hors du circuit. L'an dernier, pour la CAN, la route a finalement été refaite. Et Walid Djebaï, le fondateur de la Fédération Ivoirienne de Surf, à l'origine de l'événement, avait à cœur de remettre ce village sur la carte.
Les enfants ont grandi avec tous ces expatriés et ivoiriens qui venaient ici à l'époque surfer. Et ils ont été inspirés, ils ont aimé ça. Ce sont des gens de l'eau, ce sont des watermen, ce sont des gens qui vivent, ce sont des pêcheurs. Donc ils ont quand même un lien avec l'océan. Et aujourd'hui, après 20 ans, tous ces petits-enfants que j'ai vus grandir ici sont d'excellents surfeurs.
Walid Djebaï pense même que Drévin a le potentiel pour accueillir de grandes compétitions continentales et internationales dans les années à venir. Yuen Gourlet, Grand-Drévin, RFI.
Et pour terminer, on évoque la suite de la Basketball Africa League. Il reste 12 équipes en lice.
Des clubs répartis en 3 conférences. Celle de Kalahari a déjà eu lieu au Maroc. Et c'est Al-Ittihad d'Alexandrie et les River Supers du Nigeria qui ont décroché leur ticket pour les quarts de finale, tandis que le FUS de Rabat espère se qualifier parmi les meilleurs 3e. Samedi prochain, c'est la conférence Sahara qui va débuter à Dakar, où l'on retrouvera les Capverdiens de Creole Star, les Angolais du Petro de Luanda, le club tunisien de Monastir et enfin la SC Ville de Dakar qui jouera à domicile. Invité de Mondial Sport hier, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Jean-Aimé Toupane, né à Kaolack, se réjouit de la progression du basket sénégalais et africain en général.
C'est une très très bonne chose déjà de voir que le basket à ce niveau-là, le Sénégal en fait partie. Ce projet de balle d'arriver en Afrique est quelque chose d'extraordinaire pour le sport et plus en particulier pour le basket. C'est pas par hasard que la NBA a investi autant à la balle avec une académie à Dakar, avec son bureau maintenant au Sénégal, qui était à l'époque à Johannesburg. On voit qu'il y a une vraie volonté parce qu'on a quand même des profils de très très haut niveau au Sénégal et de voir que ça évolue tous les ans, c'est une bonne chose. J'espère que le club de Dakar réussira en tout cas à gagner. Moi, je suis supporter du basket sénégalais.
Jean-Aimé Toupane, invité hier de Mondial Sport, une émission à réécouter bien sûr sur l'application RFI Pure Radio.
Merci Victor Misistrano. RFI, il est 9h46 à Marseille. En France, c'est une ville qui concentre et fait cohabiter nombre de diasporas africaines. Marseille accueillait la semaine dernière la 2e édition du forum Ancrage, dédié notamment à renforcer le lien entre la France et les pays africains. Une initiative organisée par l'association Les Déterminés et soutenue par le gouvernement français. Mais les diasporas africaines présentes dans la cité phocéenne n'ont pas attendu l'État pour agir et pour créer des ponts entre communautés. C'est ce qu'a constaté Christina Okello.
Elles vivent en France, mais gardent les yeux tournés vers l'Afrique.
Au forum Ancrage à Marseille, des membres de la diaspora racontent comment elles agissent des deux côtés.
Moi, je m'appelle Nadia Tiswadiki et je dirige une structure qui s'appelle l'Agence nationale pour la promotion des investissements aux Comores.
Née en France, Nadia Tiswadiki a choisi de repartir aux Comores. Une décision qu'elle décrit comme un retour à l'essentiel.
C'est la terre-mère. Et quand on arrive là-bas, on se dit que tout ce qu'on fait peut avoir beaucoup plus d'impact que ce qu'on ferait ici.
Mais elle reste attachée à Marseille, point d'ancrage historique de sa communauté.
La diaspora comorienne, qui sont venus en France, ils venaient via la marine marchande. Quand on arrive de l'Afrique, c'est le premier endroit où on accoste.
À Marseille, d'autres choisissent d'agir ici, en France.
Je suis Moussa Camara. Je suis le fondateur et président des Déterminés.
Moussa Camara accompagne des jeunes entrepreneurs issus des quartiers et défend l'idée d'un engagement ancré dans une double culture.
Moi, je suis français d'origine malienne. Mes parents sont au Mali, j'ai de la famille là-bas. Je suis attaché à mon pays, la France, mais je suis aussi attaché à mon pays d'origine. Et c'est pas possible de ne pas créer des ponts. Il y a toujours quelque chose à construire. C'est ça, ancrage culturel, ancré dans nos richesses, ancré dans notre origine, dans notre double origine. Et c'est ça le mot ancrage.
Même quand les États rompent le dialogue, les échanges humains, eux, continuent. Malbila Yero est burkinabé, volontaire en mission à Marseille.
Moi, c'est Malbila Yero. Je suis volontaire de solidarité internationale.
Dans un contexte de désaccord entre son pays et la France, il croit encore aux rencontres et au vivre ensemble.
Le forum ancrage permet à voir autrement le monde. Et de diversifier les relations, de se poser les questions et construire une dynamique plus, comment dirais-je, réciproque. Autrement, c'est cette ouverture aussi à d'autres, à d'horizons, sans distinction aucune. Ça, c'est un élément important aussi qui permet de renforcer les liens.
Des liens entre peuples et non plus seulement entre États. À Marseille, carrefour symbolique, ces diasporas ne parlent pas de rupture, mais d'avenir partagé. Christina Okello, Marseille, RFI.
Marseille comme à Paris où il est 9h49. Afrique Économie sur RFI et ce matin on parle insécurité alimentaire qui sévit en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Plus de 30 millions de personnes sont concernées et ce chiffre pourrait encore augmenter. Situation décortiquée ces derniers jours lors d'une réunion dédiée du réseau de prévention des crises alimentaires d'Afrique de l'Ouest et du Sahel à l'OCDE. Or l'une des premières conclusions portant sur la dernière campagne agro-pastorale, eh bien, c'est que les récoltes sont en baisse. Charlotte Cosset.
Malgré une bonne campagne de saison des pluies, les récoltes n'ont pas été au rendez-vous. En moyenne, selon les statistiques, la production céréalière a baissé de 5% par habitant et l'insécurité alimentaire progresse. Différents facteurs expliquent cela, met en avant Abdoulaye Mohamadou, le secrétaire exécutif du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le CILS.
Nous avons des facteurs aggravants. Comme l'insécurité civile qui fait que beaucoup de populations sont déplacées et donc ont perdu leur capital productif. Nous avons également la situation des marchés, une forte inflation qui fait qu'il y a une tendance haussière depuis quelques années, où les prix ne redescendent pas. Traditionnellement, on est dans la période des récoltes, les prix baissent, mais là, on a une tendance sur la région extrêmement inquiétante liée à la dépréciation aussi des monnaies dans certaines régions.
Pour lui, il existe également une dimension politique évidente. Les accords de Malabo prévoyaient un engagement financier de 10% des ressources des États dans l'agriculture.
Malabo n'a jamais été vraiment atteint. Il y a de nouveaux facteurs aggravants. Aujourd'hui, avec le terrorisme et l'insécurité, les arbitrages budgétaires se font malheureusement en faveur du secteur agricole au profit de tout ce qui est défense et sécurité.
Nana Touré est la directrice du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE. Elle abonde en ce sens.
Cette crise est récurrente. On ne peut plus la considérer comme conjoncturelle ou une question d'urgence. Donc la question de planification est au cœur des décisions. Et qui dit planification dit priorité, dit aussi volonté politique de non seulement reconnaître l'existence de cette récurrence et aussi la nécessité d'investir les budgets et les mécanismes nécessaires qu'il faut pour répondre à cette récurrence-là.
Cette dynamique doit être régionale et ceci malgré la création de l'AES et de la sortie de ces trois pays de la CEDEAO.
Je crois que l'espace communautaire existe encore, il y a des corridors qui existent encore entre les communautés et des corridors de commerce au niveau des différents espaces. Donc je ne pense pas que la dimension politique interfère à ce niveau-là et que les systèmes sont en place et sont fonctionnelle encore.
Les coupes drastiques du USAID et les baisses générales de l'aide publique au développement auront sans doute un impact sur la prochaine campagne. Les évaluations sont en cours.
RFI à Nouakchott, il est 7h52, tout de suite, musique. Notre choix musical sur RFI, le groupe américain Japanese Breakfast que l'on entend. Bonjour José Marinho.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
En studio pour nous en parler ce matin. Alors pourquoi on en parle José? Eh bien parce qu'ils viennent de sortir un quatrième album plébiscité par la critique. Ça s'appelle For Melancholy Brunettes and Sad Women.
Ce qui veut dire pour les brunes mélancoliques et les femmes tristes, c'est bien un disque introspectif habité par le spleen, mais c'est aussi une œuvre lumineuse. Tout en arpèges acoustiques, cordes célestes et mille trouvailles mélodiques de haute volée.
Et à la tête de Japanese Breakfast, on trouve Michel Zoner.
Michel Zoner est une chanteuse, compositrice, guitariste, autrice et aussi écrivaine américaine d'origine coréenne de 35 ans. En 10 ans, cette artiste touche-à-tout s'est imposée comme une grande voix de la musique américaine actuelle, se renouvelant à chaque album, shoegaze, électro, R&B et ici Dream Pop. As if the sea I bore her to be an ideal woman. She came down from the water like Venus from the shell. Singing his name with all the sweetness of a mother.
Ici sur cette fable amoureuse Orlando in Love, le timbre de Michel Zoner est léger, les sujets eux ne le sont jamais.
Oui, elle a toujours écrit sur ce qui lui échappe, la mémoire, la double culture, la langue qu'on perd, le chagrin, le deuil. On lui doit en 2021 Pleurer au supermarché, un best-seller sur sa mère, cuisinière coréenne morte trop tôt d'un cancer. Sa quête sur ses racines à travers la nourriture du pays maternel tape dans le mille aux États-Unis et se vend à plus d'un million d'exemplaires. Et son nouvel album parle encore et toujours de sa famille dans le titre
« Here is someone ». Quatrième album, José, vous nous dites que Japanese Breakfast a travaillé avec un casting 5 étoiles.
On retrouve à la production Blake Mills, guitariste sur le dernier disque de Bob Dylan, et aussi le batteur Jim Keltner, qui a collaboré avec tout le Gotha Rock, notamment avec John Lennon. Japanese Breakfast profite de ses musiciens de luxe pour s'éloigner des sonorités synthétiques froides de ses débuts et gagne en couleur à l'image de ce morceau folk rock tout en tension. Voilà, Andréane, c'est un virage à 180 degrés que Michel Zauner opère sur cet album haut de gamme, incontestablement son meilleur à ce jour.
Fort Melancholy Brunettes and Sad Woman, c'est le nom de ce quatrième album de Japanese Breakfast. J'annonce que le groupe sera en concert les 7 et 8 juillet au Trianon, à Paris. On écoute une toute dernière chanson, méga circuit. Merci José Marinho.
Merci à vous.
Le groupe américain Japanese Breakfast pour terminer cette matinée RFI Matin. C'est fini pour aujourd'hui et on termine avec cette information qui vient de nous parvenir. Le pape François est mort. C'est le Vatican qui l'annonce. On y revient dans notre prochain journal à 10h de Paris avec Marion Cazanov. Bien sûr, toute la rédaction mobilisée pour vous en parler sur notre site également RFI.fr. Restez bien avec nous. Vos programmes continuent sur la radio du monde. Le pape François donc décédé ce lundi 21 avril. Dans deux minutes, le journal suivi d'appels sur l'actualité. Bonjour Namoury Dosso.
Bonjour Andréane et bonjour à tous.
Quel est le programme du jour?
Alors, dans 10 minutes, nous répondrons à vos questions concernant l'actualité. Hein, et dans 40 minutes, le débat en Côte d'Ivoire à l'issue de la convention du PDCI-RDA. Tidane Tam a été élu candidat du parti pour la présidentielle du 25 octobre prochain. Que vous inspire son élection? A-t-il les moyens de fédérer l'opposition derrière lui avant ce scrutin? Vos réactions, vos commentaires et vos points de vue sont attendus au standard 33 9 693 693 70.
Belle émission Namoury et belle journée à vous.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, la voix, elle se forme à travers les cordes vocales. Quels facteurs peuvent les fragiliser? Comment prendre soin de cet organe de la parole? Demain, les maladies chroniques sont souvent vécues comme un fardeau pour les patients. Comment la psychiatrie peut aider à mieux vivre cette épreuve?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI.
Le journal en français facile.
Bonjour, je m'appelle Priyanka et je suis indienne. J'écoute le français facile depuis un an. Les mots utilisés sont simples et très utiles pour la vie quotidienne. En tant que débutante, je l'ai trouvé génial car les podcasts proposent différents types de sujets intéressants décrits en français simple.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h TU sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.